Bonjour, bienvenue dans la classe de seconde hôtellerie-restauration du lycée Charles de Gaulle de Compiègne. Aujourd'hui, nous recevons Antoine et Guillaume Beaufumet, les chefs du restaurant compiénois, les Ferlampins.
Bonjour, comment êtes-vous devenu cuisinier ?
Ça a commencé très tôt. J'ai toujours aimé, j'ai toujours été gourmand et puis j'ai toujours eu le palais assez développé dès que j'étais petit. Et j'ai vite aidé ma mère à faire à manger pour toute la famille. Elle avait des gros horaires et du coup, je l'ai vite relayé dès l'âge de 10 ans, un truc comme ça. Puis c'est arrivé au bac où en gros, il fallait se décider. Et c'est limite elle qui m'a poussé à m'orienter vers la cuisine. Et c'est vrai que quand elle me l'a dit, ça paraissait une évidence que je n'avais pas remarqué tout seul. Et voilà, depuis, je me suis orienté là-dedans. Et ensuite, avec Guillaume, on a vite eu ce projet de monter ça à deux. Et c'était notre rêve depuis presque 20 ans. 10, 20 ans, voilà.
Il faut savoir qu'on n'est pas, nos parents ne sont pas de la restauration, donc on n'était pas issus de ce milieu. On était juste, on avait découvert les petits plats de notre mère, de notre grand-mère et tout. Et c'est vraiment par là, donc on n'était vraiment pas un pied dans la restauration. Et comme a dit Antoine, ouais, on est sortis d'un bac général et on s'est demandé ce qu'on allait faire de nos pauvres vies, comme vous. Et de bosser dans un bureau ou pas, mais enfin voilà, on s'est dit que le principal c'était d'être heureux au travail, d'aller au travail avec le sourire tous les matins et faire ce qui nous plaisait avant tout, c'est ça qui est important.
Quelle formation avez-vous suivi ?
Alors de mon côté, CAP cuisine à l'école Ferrandi, donc une super école à Paris. Et voilà, j'ai juste passé le CAP, je suis pas allé plus loin dans les études. Avant ça, j'avais un bac général, mais qui n'a rien à voir avec la cuisine, même si on a des notions dans bien d'autres domaines. Et alors Guillaume, lui, il a commencé par le CAP salle et il a enchaîné à Ferrandi aussi. Et il a enchaîné par
un bachelor
management hôtelier. C'est ça.
Le bachelor, en fait, c'est ce qui était intéressant à Ferrandi, c'est qu'il y avait la dimension de créer son entreprise. C'est pas juste occuper un poste plus tard dans un restaurant, dans un hôtel, etc. Alors, il y a cette possibilité, mais il y avait là vraiment la dimension entrepreneuriat. Et donc, c'était ça, c'était management, donc manager une équipe. Ça, c'est important, c'est le futur de votre travail. Et aussi avoir son entreprise et tout connaître de A à Z, parce que avoir n'importe quelle entreprise, ça comprend plein de corps de métier, la communication, la gestion, le management, les langues aussi, c'est très important. Enfin, ça comprend plein de choses. Et donc, il fallait, faut avoir des notions dans tout ça aussi.
Où avez-vous travaillé auparavant ?
Alors, sur Paris, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai eu la chance de faire mon premier stage au Laurent, un restaurant 2 étoiles en bas des Champs-Élysées à Paris, où a d'ailleurs été tourné le film Le Grand Restaurant avec De Funès. Et là, ça m'a tout de suite... j'ai découvert un monde, la gastronomie vraiment haut niveau. Et après ça, j'ai enchaîné vers des restaurants sur Paris, pas forcément étoilés, des petits bistrots, entre guillemets, de quartier, mais où il y avait quand même une certaine qualité, fraîcheur des produits, etc. Ensuite, je suis resté un peu en Île-de-France, surtout, région parisienne proche. Et je suis revenu dans l'Oise quelques temps, pour au final rester sur Paris ces 10 années-là. Et là, on vient de se poser, ça va faire 6 ans maintenant. On est revenu dans l'Oise avec Guillaume, créer notre restaurant ensemble.
Pour le coup, moi aussi, j'ai commencé dans un établissement un peu réputé d'Alain Ducasse, sur Paris, grâce à l'école qui m'avait trouvé ce stage. Donc effectivement, comme Antoine, début dans des grandes cuisines, grands restaurants, donc très classiques, très gastro à l'ancienne. Alors c'est intéressant d'y passer parce qu'on... il faut pour avancer, il faut comprendre le passé de la restauration. C'est vrai, tout se passe à Paris, c'est un vieux bistrot à l'ancienne. Et ensuite, pas mal d'expérience. Et la chance qu'on a dans ce milieu, c'est qu'on peut tout voir, tout faire, partout dans le monde. Si on est un peu bosseur, bien sûr, on a toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Et donc, moi, pour le coup, j'ai commencé chez Ducasse. Ensuite, j'ai été dans un traiteur de saumon. Je connaissais pas du tout le poisson, c'était pas trop mon truc. Et je voulais apprendre le saumon, justement. J'avais des failles là-dessus et je voulais combler un peu tout ce que je connaissais pas. En fait, ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est à chaque fois de découvrir des nouvelles choses, toujours de se nourrir de ce qu'on peut se nourrir. Sinon, on s'ennuie et puis ça sert à rien de travailler. Et donc ensuite, j'étais caviste parce que je voulais plus en apprendre sur le vin. Donc je me suis vraiment passionné là-dessus. Un peu de consulting en restauration aussi pour accompagner des entreprises qui ouvraient et tout. Avant de... Et avec Antoine, on avait toujours ce projet. Donc ensuite, voilà, effectivement, il y a 6 ans, on est revenu dans le coin, dans notre région, pour ouvrir notre restaurant et réaliser notre rêve.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Je pense que déjà, il y avait cette envie de... On n'est pas dans la norme, forcément. Quand on rentre dans ce milieu, on ne rentre pas tous les soirs à 5 heures, on se lève tôt. C'est beaucoup de contraintes physiques, etc., au niveau personnel aussi. Mais c'est un métier de passion. Si on n'a pas cette passion, ça va être difficile de faire toute sa carrière là-dedans, hein, je vous le dis direct. Parce qu'il faut vraiment faut avoir quelque chose qui vous pousse à vous lever tous les matins, aller au travail, d'être content. Et c'est vrai que nous, c'était ce côté passion. Antoine avait cette passion pour la nourriture, pour développer les arômes, etc. Moi aussi, j'étais vraiment passionné de nourriture. Je voulais plus apporter le côté, justement, service qu'on ne connaissait pas. On n'avait pas ces notions. Et le côté avec le vin. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est une passion. Il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Enfin, sinon, vous vous rendez compte que la moitié de votre vie, vous allez la passer au travail. Si vous n'êtes pas heureux au travail, vous ne serez pas heureux dans votre vie. Enfin, la plupart des gens pensent que vous allez vous développer par vos loisirs, mais finalement, c'est par le travail qu'on se développe aussi, et c'est important. Les deux sont importants. Mais il faut vraiment, voilà, il fallait qu'on réfléchisse à quelque chose qui nous plaisait, qui nous prenait au trip vraiment. Et ça a été le moteur, je pense, de notre ambition, quoi. Et c'est pour ça qu'on a cravaché pendant 15 ans pour en arriver là. Ouais.
C'est la passion avant tout. Se dire que... Alors, il y a des gens qui s'épanouissent au bureau, tout ça. Nous, c'est pas le cas. Il y a ce côté manuel, très polyvalent, où là, en plus, on gère un restaurant, on gère une cuisine, on gère une salle. Il y a tout le côté produit, le côté management du personnel. Créer une belle équipe, c'est quelque chose de très important et d'épanouissant. Parfois, c'est un peu galère, ça c'est clair. Surtout qu'on a un métier qui est assez contraignant. Donc il faut trouver des gens qui ont envie de donner, mais il faut aussi qu'on leur rende. C'est donnant-donnant, c'est vraiment dans ce métier-là, c'est une équipe, on ne peut rien faire. Alors si on est une toute petite structure, oui, on peut faire ça tout seul ou juste à deux. Mais voilà, qu'on arrive à créer une équipe qui bosse bien, qui s'entend bien, qui arrive à créer quelque chose, et quand on arrive à le faire ressentir aux clients, c'est là que là, tout de suite, on comprend qu'on a fait quelque chose, on peut en être fier, on est heureux, et quand on va le matin au boulot, mais qu'on n'a pas vraiment l'impression d'aller au boulot, c'est là qu'on se dit « Ah ouais, ouais, là, c'est quand même quelque chose de sympa. »
Et puis quand vous rentrez le soir et que vous avez ce sentiment d'avoir accompli quelque chose de votre journée, c'est « Ah, je suis fier aujourd'hui. » Bah oui, certes, on s'est fait déchirer, on a beaucoup bossé, je suis fatigué, je le sens dans mon corps, mais au moins... voilà, on a vraiment cette valeur, on a le produit fini qui est devant vous. C'est pas quelque chose qui va arriver des mois plus tard. On sait pas trop pourquoi on apprend ça, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Là, on sait pourquoi on fait les choses. On a fait nos choix et justement, on a se rendu à la fin. Moi, quand je vais débarrasser les clients en fin de repas, ils ont le cœur ouvert, ils sont ravis et puis on se blinde de ça, quoi. C'est aussi une façon de... Voilà, on est aussi payé à ça, c'est la satisfaction client. La satisfaction de produire du plaisir et de partager ce plaisir et cette passion avec d'autres personnes. Et là, on touche l'humain, et l'humain a vraiment une place très importante. Si on n'aime pas les gens dans ce métier, il ne faut pas le faire. Ou vous pouvez à la limite rester en cuisine, mais il y a vraiment ce partage avec les clients qui est important, et c'est comme ça. Enfin, les clients vous le rendent bien aussi, parce que quand on donne, on reçoit aussi. Alors, ce n'est pas toujours facile, on ne voit pas toujours la valeur des choses, mais c'est aussi ça qui est important, quoi. Il faut finir votre journée avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de personnel, quelque chose au niveau d'un groupe, au niveau d'une équipe, et vraiment d'avoir fait quelque chose de votre journée, quoi.
Quand avez-vous créé votre restaurant ?
On a quitté Paris en 2015. Il fallait qu'on saute le pas un moment, on ne sait jamais quel est le moment. Hein. Si vous avez des projets plus tard, il n'y a pas de moment parfait pour se lancer. Ça arrive, vous le choisissez, il faut le provoquer aussi, il faut saisir des opportunités. Puis c'est ce qu'on a fait, donc on est revenu dans la région. Et en 2015, on est revenu, on a trouvé un local pendant l'été 2015. Octobre, on récupérait les clés, on a fait les travaux pendant 3 mois et en février, on était ouvert début février 2016. Donc là, voilà, 6 ans maintenant.
Pourquoi vous êtes-vous installé à Compiègne ?
À la base, avec Antoine, on s'était dit qu'on irait peut-être autre part en France. Alors, à chaque fois qu'on est jeune, on a envie de quitter la région où on a grandi et tout. On a envie de voir autre chose. C'est pour ça qu'on est parti à Paris faire nos études. Mais ensuite, au bout de 10 ans à Paris, on avait besoin de revenir un peu à voir du vert, en fait. Et on se demandait où est-ce qu'on allait bouger, est-ce qu'on allait bouger en France. Mais finalement, on n'avait pas d'autres attaches. Ici, on avait des attaches, de la famille, on connaissait la région. Et on avait le choix entre, trois villes, parce qu'on voulait vraiment s'installer plutôt en ville. Quand on n'est pas très connu, on ne va pas se mettre au fin fond de la campagne et ouvrir un restaurant gastro si on n'est pas connu. Donc on avait le choix entre Senlis, Chantilly et Compiègne. Compiègne, c'est vraiment détaché au niveau économique déjà, au niveau dynamique. Il y a l'université, il y a l'UTC, il y a les SCOM. Au niveau des grandes entreprises aussi, c'est assez accueillant. Enfin voilà, on est vraiment dans le... Déjà, on est dans une région qui est pas mal. On est au cœur Paris, Londres, Bruxelles. Donc, c'est assez dynamique comme région. Et Compiègne, particulièrement, entre ces trois villes, c'était celle qui nous paraissait la plus évidente. Et puis, au niveau de la clientèle aussi, ça nous intéressait plus parce que sur les chantiers, c'est une clientèle un peu plus peut-être sur des vieilles valeurs, enfin des valeurs qui ne nous correspondaient pas. Nous, on voulait apporter quelque chose de nouveau et de frais. Donc, on a pensé que Compiègne, c'était une bonne ville.
Avez-vous toujours voulu travailler ensemble ?
On n'a jamais travaillé ensemble avant le restaurant. Donc en gros, on ne savait pas... C'était nouveau, c'était de l'inconnu, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. On a habité ensemble pendant pas mal d'années, donc on se croisait, on avait chacun la coupure, et puis on se voyait, on était complètement rincés, on sortait du boulot, enfin voilà, gros horaires, les transports, Paris, tout ça. Mais du coup, il y avait ce projet qui mûrissait. Et on s'est toujours très bien entendu, on a toujours été très, très proches. Et puis c'était un peu une évidence, puisqu'on avait ça qui tournait en tête depuis pas mal d'années. Et voilà, en gros, le premier jour d'ouverture du restaurant, c'était vraiment la première fois où on travaillait vraiment dans le domaine professionnel ensemble. Avant ça, on avait travaillé sur des projets, sur des trucs, à côté. Mais c'était vraiment le restaurant, c'était le tout début de notre boulot ensemble.
Est-ce difficile de travailler en famille ?
Non. Non, au contraire. Alors après, dans certains cas, on a entendu des histoires qui ont mal tourné, malheureusement. Il y a des gens qui peuvent s'embrouiller au point de plus pouvoir se voir. Nous, c'est pas du tout le cas. Évidemment, que ce soit famille ou pas famille, il y a des hauts, des bas, il y a des tensions, il y a des moments qui se passent très bien. Il y en a d'autres qui se passent moins bien. C'est la vie, c'est comme ça, c'est qu'on soit en famille ou non. Mais nous, personnellement, ça a toujours été top. Quand Guillaume m'a rejoint en cuisine, parce qu'à un moment, on galérait pour trouver du personnel, à des moments, on n'avait même pas besoin de se parler. À peine on se regardait, on savait que, tiens, toi, tu as besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça. Et on se passait les trucs, et puis au bout d'un moment, on se disait, ah ouais, merci, on ne s'était même pas rendu compte, quoi. Pour te dire à quel point c'était comme ça, ça passait tout seul.
Mais avant qu'on ouvre, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah oui, j'ai entendu l'histoire de tel qui a ouvert en famille avec son frère et tout, ils se sont embrouillés, il y a des familles effectivement qui sont éclatées. » Pareil, quand vous avez des associés, alors beaucoup d'amis « Ah, j'ai toujours rêvé d'ouvrir un bar avec mon pote et tout. » Et vos amitiés ne vont pas forcément être les mêmes par la suite, etc. Vous n'avez pas forcément les mêmes dynamiques, donc... Quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut créer des soucis par la suite. Et effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Après, voilà, c'est en même temps, c'est pas facile d'ouvrir tout seul. Hein. Je pense que nous, ça a été notre force, c'est pouvoir se soutenir tous les deux. Ça, c'est très important. Mais si ça n'avait pas été mon frère, peut-être que ça ne serait pas aussi bien passé. Mais pour le coup, si ça s'était mal passé avec mon frère, là, ça aurait été plus problématique. Donc, c'est un risque à prendre. Mais nous, on avait vraiment, effectivement, une très bonne entente. Donc moins de soucis là-dessus. Ouais.
D'où vient le nom Les Ferlampins ?
Alors à vrai dire, on cherchait, parce que ce projet, on l'avait vraiment depuis 15 ans. Et à l'époque, à l'école, on avait fait un mémoire justement de création d'entreprise où on avait créé déjà ce restaurant il y a 15 ans sur papier. Et à l'époque, le nom, c'était Entre Frères, enfin c'était un peu bateau et tout. On voulait quelque chose qui claque un peu, donc on a regardé On a parcouru un lexique comme ça de vieux patois picard, parce que nous, c'était notre fond de commerce, c'était vraiment de faire du terroir, du picard, revendiquer notre région. Et donc, on est tombé sur ce mot qui nous a fait rire. Et puis, on s'en est rappelé parce qu'on nous l'a déjà sorti quand on était petit. Et ferlampin, donc, c'est-à-dire polisson, c'est-à-dire petit garnement en vieux patois picard, parce que nous, on avait cette envie de dire, avec Antoine, à la fois, on veut faire les choses bien, mais on ne se prend pas forcément au sérieux. On aime bien déconner, on a toujours été comme ça. C'est cette relation de frère qui déconne tout le temps, etc. Cette simplicité aussi. Et puis, ça sonne... si vous dites ça à un étranger, un anglais, le nom, ça le fait rire. Ces petites intonations comme ça, françaises, un peu brutes, un peu de terroir, qui font rire. Donc tout de suite, ça a des connotations assez positives.
Votre logo est constitué de deux personnages et d'un pommier avec une seule pomme. Pouvez-vous nous expliquer son origine ?
Justement, c'est lié au ferlampin, parce que quand on était petit avec Antoine, on n'hésitait pas à passer par-dessus la clôture du voisin pour aller voler ses pommes, en fait. Et donc, ça exprime cette pomme. Ça peut exprimer plein de choses. Chacun ensuite se fait son idée, mais c'était ce côté petit voleur, petit garnement, petit polisson et ferlampin qui faisait comme il l'entendait, il ne suivait pas forcément les codes ou les lois, c'est-à-dire là, il y a une bonne pomme bien rouge à cueillir, et on va l'accueillir. Parce que personne ne va la manger, elle va pourrir, donc on en profite.
Et il y avait aussi, justement, quand on se prenait la tête pour trouver ce nom, et sortir tout plein d'idées, on est tombé sur une vieille photo de nous deux, tout petits, je ne sais pas quel âge on avait, mais on était vraiment, vraiment tout petits. Et c'est presque la même conception que le logo, on était tous les deux assis sur un petit muret. Moi, je crois que j'avais une pomme dans la main, Guillaume une poire, et puis on était là, on l'a montré, on était contents, on était mômes, quoi. Et quand on a vu la photo, on s'est dit, c'est exactement ça. Et limite, je crois que cette photo, elle est sur notre site. Ouais. Si vous regardez, vous trouverez la photo et vous verrez, vous pouvez comparer le logo, la photo, c'est exactement ça, quoi. C'est juste la petite anecdote qui a fait que, on a trouvé le truc. C'est tout.
D'où vient votre slogan ? Restaurant à but gustatif.
Ça, c'est Guillaume. Encore une fois, on se prenait la tête pour trouver une idée. Et parfois, on ne fait pas forcément appel à des professionnels. On fait les choses un peu nous-mêmes. On a fait toujours beaucoup de choses nous-mêmes, comme les travaux, par exemple. On s'est improvisionné, plaquiste, plein de choses. Mais donc, là, c'était... on cherchait des idées. Et en gros, c'est Guillaume qui s'est un peu creusé la tête et qui a sorti ça d'un coup.
Ouais. Et en fait, c'est aussi pour exprimer à but gustatif, c'est que... Il y a plusieurs types de repas. Il y a les repas de loisirs, les repas de travail, etc. Et alors soit on va au restaurant pour se nourrir. Donc ça, c'est tout simplement, on se remplit le ventre et puis on s'en fiche un peu de ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange. On regarde la quantité et le prix pas cher. Nous, le but, c'est le goût avant tout. Et on vient pas pour se nourrir, mais on vient pour manger chez nous. C'était aussi cette notion de c'est le goût avant tout.
Pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être créatif en cuisine ?
Alors la créativité en cuisine, malheureusement, on est tellement maintenant autour de réseaux sociaux, etc. Sans arrêt sur vos téléphones, vous avez des feeds comme ça où c'est tel grand chef. Et donc on a un peu toutes les tendances culinaires qui se dessinent comme ça. Ces grands chefs, c'est comme la haute couture, c'est eux qui dessinent les modes à venir en cuisine. Mais finalement, ça, c'est pas vraiment de la créativité. Enfin, pour eux aussi. Mais quand vous avez le reste des chefs de la France qui, en fait, se regardent Top Chef et vont refaire la même chose que Top Chef la veille, c'est pas forcément de la créativité. Donc, la créativité, c'est quand Antoine, justement, crée des recettes, c'est qu'on va partir d'un produit. Et puis là, il reste dans une certaine autarcie. Il se coupe de tout et puis il va développer autour de ce produit. On l'analyse comment il est. Puis on est sur du local. Il y a plein de contraintes, plein de choses qu'on ne peut pas faire. Non, il n'y a pas de citron, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc, on va créer autour de ça avec ce qu'on a. Et puis, c'est là qu'il faut vraiment se dépatouiller pour trouver la création, mais aussi qui est en rapport avec ce que vous voulez transmettre aussi aux gens.
Guillaume a bien résumé le truc. Et parfois, ça peut partir d'un... tout petit truc, je peux partir en cueillette en forêt et je vais trouver une plante, une fleur, puis je vais me dire tiens, peut-être à partir de ça, on pourrait partir sur quelque chose de travaillé, complètement en accord avec cette plante, cette fleur, ce produit. Parfois ça va être avec un retour client, on va faire un petit menu midi, puis on se rend compte que tiens, le menu midi en fait il est sympa. Et il y a des clients qui vont nous dire « Ah ouais, ça franchement, on a bien kiffé, c'était cool. » Et du coup, on va se dire « Tiens, on peut garder cette petite idée et ensuite la réinterpréter différemment. » Donc parfois, on est créatif à partir d'un certain moment, d'un certain produit, d'une certaine saison. Parce que d'un seul coup, on a un producteur qui va nous dire « Tiens, j'ai ça, est-ce que tu veux tester quelque chose ?» Et voilà, parfois, c'est vraiment… ça part de rien ou presque rien. Et ensuite, ça amène à tout un plat, voilà, une carte. Donc, c'est plein de petites choses différentes.
Et comment cela se traduit dans vos plats ?
Bah, justement, c'est… Alors, on se rate aussi beaucoup. Hein. Quand on est créatif, justement, c'est… Bah, on va se foirer sur des recettes plusieurs fois. Il ne faut pas abandonner. C'est là qu'on se bat. Et puis, il faut continuer à trouver pour qu'ensuite… Il y a quelque chose qui se passe, et en fait, pour nous, quand on a réussi une création, c'est que justement, il y a quelqu'un qui… On n'est pas parti d'un produit qui était très cher et tout. Un jour, j'ai une dame, on faisait une entrée à base d'œuf, elle m'a dit « j'étais beaucoup plus impressionné par l'entrée à base d'œuf que l'entrée à base de Saint-Jacques », alors que le prix, à la base, c'est complètement différent. On est sur un produit d'exception face à un produit très, très courant. Et en fait, la façon de sublimer le produit, l'avait vraiment emporté, et puis il y avait quelque chose… Voilà, ça dépassait juste une recette. C'était, voilà, c'est un ensemble qui fait qu'il y a un équilibre qui se fait en bouche. Et après, ça se traduit dans l'assiette. Bah, finalement, maintenant, on a adopté un style. Comme il y a des maisons, quand vous regardez certains vêtements sur une certaine marque, eh ben, vous reconnaissez le style de cette marque. Eh ben, nous, le style Ferlampin, ça se reconnaît dans l'assiette. Les habitués, au bout d'un moment, si on leur met plusieurs assiettes devant les yeux de plusieurs restaurants, ils vont reconnaître le style Ferlampin. Et ça, c'est difficile à exprimer. C'est quelque chose, c'est un peu une valeur. On y arrive. Alors, à chaque fois, on se prend la tête pour arriver justement à cette perfection, enfin, qui est notre perfection, qui n'est pas forcément celle des autres. Mais au moins, on s'est affirmé dans ce qu'on a fait. Et c'est surtout ça, ça se traduit dans l'assiette par effectivement notre personnalité, avant tout.
En quoi consiste votre cuisine ? Avez-vous un plat emblématique ?
Alors, on nous pose souvent cette question, c'est quoi ta spécialité, c'est quoi votre truc en particulier, mais on n'en a pas. En fait, tout ce qu'on a, c'est des producteurs qui nous entourent, avec qui on entretient des bonnes relations, des produits frais, tout, enfin 100% frais, tout fait maison. Il n'y a que le pain qu'on ne fait pas nous-mêmes. Ça, on laisse ça à un artisan boulanger, c'est son travail, c'est sa passion, c'est sa spécialité. Nous, on ne peut pas s'improviser... faire tous les corps de métier, c'est pas possible. Donc en fait, on essaye de faire du local au maximum. Produit de saison, évidemment. Donc parfois, ça peut être des contraintes, comme disait Guillaume tout à l'heure. Là, on n'a toujours pas fait de tomates. On voit des restaurants qui commencent à travailler des tomates. On voit des tomates qui arrivent dans le commerce. Mais nous, on attend d'avoir les petites tomates de notre producteur. Et une fois qu'elles arrivent, là, on est super content. Et là, pour nous, on va les savourer encore plus et on essaye de faire vivre ça puissance 10 à nos clients parce qu'on va essayer de travailler le produit du mieux possible. Et voilà, c'est des contraintes qui deviennent des avantages et qui nous aident à créer et voilà.
Et au début, on a eu quelques petits plats emblématiques. En fait, c'est quand on a commencé, tout de suite, les gens nous faisaient connaître auprès de leurs amis avec « Ah, j'ai goûté », ils parlaient d'un dessert, on avait revisité un peu le dessert glacé, la barre chocolatée Snickers. Donc voilà, chocolat, cacahuète et tout. Et en fait, par la suite, il y a plein de gens qui nous le demandaient « Quand est-ce que vous le ressortez ?» Mais déjà, Antoine, lui, il a un mot d'ordre, c'est qu'il ne veut jamais refaire la même chose. En plus de toutes les contraintes qu'on a, c'est-à-dire que depuis 6 ans, on travaille toujours avec les mêmes produits et les mêmes légumes. Et en chaque mois de février, c'est toujours la même chose. Et nous, ça sera jamais la même chose. Et c'est là que la créativité est d'autant plus intéressante. C'est qu'on oublie ce qu'on a fait avant. On peut s'inspirer de techniques et tout. Mais Antoine, à chaque fois, il veut changer et puis toujours faire découvrir pour toujours créer l'étonnement, la nouveauté. C'est important parce que sinon, on se retrouve un peu comme les vieux gastro à l'ancienne, comme ça, où c'est toujours les mêmes plats emblématiques. C'est-à-dire que vous allez chez Paul Bocuse pour son velouté à la truffe, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes plats emblématiques que finalement, on ne respecte même plus forcément la saison, enfin, la normalité des choses. C'est juste parce qu'on attend que vous fassiez ça. C'est-à-dire, on attend que vous fassiez du foie gras. Pourquoi on fait du foie gras ? Pourquoi tous les gastros feront du foie gras ? C'est juste qu'on leur demande de faire du foie gras, mais alors que c'est à nous de dicter en fait ce que les gens vont manger. Nous, on a décidé, le foie gras, on a arrêté... On en a fait un peu la première année, et puis ensuite on a très vite arrêté, parce que c'est pas quelque chose qui nous portait, et on s'est affirmé là-dessus. Des gens, à chaque fois à Noël, ils demandent « Ah, vous n'avez pas de foie gras ?» Bah non. Mais par contre, tous les restaurants, ils en ont. Donc voilà, il faut savoir aussi se démarquer. Et si on fait des plats signatures, bah, au bout d'un moment, on reste dans une petite routine qui est un peu facile.
À quel moment et comment vous viennent des idées de nouveaux plats ?
Bah justement, là, on est en train de réfléchir à la prochaine carte. Et bah, c'est pas facile. Là, justement, on a travaillé la carte du mois de mai. On avait certains produits. Là, il y a du fenouil, il y a les asperges, etc. Et alors, en fait, il faut anticiper ce qui va se passer. Il faut jouer avec la météo. Là, on a une météo clémente. Tous les légumes sont en avance. On sait qu'on va bientôt avoir les petits pois et tout, mais on ne peut pas dire la semaine prochaine, on a les petits pois. Non, non, parce que votre producteur va dire « Ah bah non, il faut attendre encore 2 semaines finalement, parce qu'il fait un peu moche aujourd'hui. » Donc ça va décaler tout ça. Donc en fait, c'est... on fait ouais, en fonction des nouveaux produits qui arrivent, et puis bah, on se creuse la tête à fond pour des nouvelles techniques, parce qu'Antoine veut, on ne veut jamais faire la même chose. Et donc là, ouais, on est en train de créer la carte. Qu'est-ce qu'on a sorti ? Donc, on teste des nouvelles choses. Là, par exemple, on voulait tester de faire... Là, il n'y a pas longtemps, on s'est mis à faire la mascarpone maison, au lieu de l'acheter toute faite, comme la plupart des restaurants. Et là, on va essayer de, on va faire de la, une sorte de ricotta maison, enfin, et trouver des nouvelles techniques et construire autour de ça. Donc là, on a pensé, ouais, une petite ricotta parfumée aux herbes qu'on va peut-être fumer, on va voir, et on va voir à quoi on va l'accompagner. Mais voilà, on est parti d'une idée de base, voilà, un produit qu'on va créer nous-mêmes et puis construire autour de ça. Voilà, ricotta, c'est un peu sur l'acidité, c'est en même temps, c'est doux. Et puis, voilà, maintenant, c'est à nous de construire autour de ça et puis se tromper un peu avant de réussir à trouver le bon truc, quoi.
Comment choisissez-vous vos fournisseurs ?
Alors, comment on choisit nos fournisseurs ? Bah, déjà, on regarde qui est autour de nous. C'est déjà un des aspects les plus importants, parce qu'on essaye de choisir au plus proche. La variété de ce qu'ils proposent. Après, c'est une relation qu'on entretient avec eux. Je sais qu'on a démarré il y a quelques temps le maïs. On leur demandait s'ils pouvaient nous trouver du maïs doux. Ils nous l'ont fait. Puis ensuite, ils l'ont démarré sur les marchés. Ça a super bien marché pour eux. Et du coup, ça a créé quelque chose. Et depuis, ils n'arrêtent pas d'en faire. Il y a aussi bah, la qualité de leurs produits. Il y a la régularité, ça, oui, mais après, de toute façon, dès qu'il y a un petit problème, on peut s'arranger avec eux, puisque, voilà, c'est une autre relation que des gros fournisseurs qui vont avoir des cahiers des charges, quelque chose de très régulier. Nous, c'est plutôt, voilà, on bosse main dans la main avec nos producteurs locaux. Voilà, c'est ce qui définit un peu toute cette relation.
Pourriez-vous nous parler d'un produit local avec lequel vous travaillez ?
Il y en a un paquet. Alors, en local qu'on ne connaît pas trop, là, en ce moment, Antoine, il travaille des pois chiches qui viennent de la baie de Somme. Dans la baie de Somme et dans l'Oise aussi, il y a du safran. Safran, on pense qu'il y en a, c'est beaucoup au Maroc et tout, mais en fait, au Moyen-Âge, on avait beaucoup de safran partout en France. Donc, il y a, voilà, il y a du safran aussi dans le coin. Il y a des truffes dans le coin, ça, on ne sait pas trop, mais on a des truffes locales. Qu'un ami cueilleur, il part avec ses petites Jack Russell et puis il va nous cueillir. On est déjà allé partir en cueillir avec lui. Après, au niveau des viandes, il y a tout aussi. C'est un peu plus compliqué au niveau de la restauration, mais sinon, il y a agneau, bœuf, veau, etc. Tous les légumes, là, il y en a qui nous plantent du melon, de la pastèque. Effectivement, le maïs, bon, ça, on s'y attend plus dans le coin, mais de plus en plus de produits, ouais, qui poussent dans le coin. Il y a une productrice de baies de goji. Alors, ça, c'est pareil, avoir des baies de goji fraîches ici, mais enfin, même, si vous arrivez à trouver des baies de goji fraîches, déjà, c'est déjà bien. Mais voilà, c'est plein de nouveaux produits qui se développent au fur et à mesure. Il y a sur les céréales aussi de plus en plus. On est sur de l'épeautre, sur de plus en plus de céréales brutes parce que ça accompagne aussi les modes du moment. Maintenant, on veut des produits plus sains, plus bruts, etc. Donc les producteurs locaux, ils nous gâtent un peu et on a de plus en plus des choses. Ouais, c'est incroyable. Avec le changement climatique, ça va aussi continuer dans ce sens. On va de plus en plus avoir accès à des produits qui poussaient plus que dans le sud et maintenant qu'on va réussir à avoir ici, peut-être bientôt les pêches, les abricots, ça sera... Enfin, ça pousse, hein. Après, c'est pas aussi bon que dans le sud, mais...
Combien de personnes travaillent en cuisine dans votre restaurant et en salle ?
Alors, 3 en cuisine. Donc, Antoine, le chef, avec son second, et une personne qui est aide cuisine et à la plonge. Et puis en salle, moi, je suis avec un chef de rang aussi, donc on est 5 en tout. 2 en cuisine, 2 en salle, plus un plongeur et plus un apprenti en cuisine.
Quelle est votre relation avec la nature ?
Bah, c'est justement, c'était ancré en nous. On vient d'un petit village de 1000 habitants au milieu des champs et de la forêt. Donc tout de suite, on a grandi là-dedans. Alors après, quand on est parti à Paris, on avait besoin de ça, hein, de voir un peu la ville et tout. Mais au bout de 10 ans à Paris, on n'en pouvait plus. Et c'est que là, quand on voit que le haut du ciel, parce qu'il n'y a que du béton autour, on ne voit pas assez de verre, etc. Là, surtout avec ce métier, bah, y a un manque. Et puis quand on ne comprend plus, on ne voit plus les saisons passer, en fait. Alors oui, on se rend compte, il fait beau, il pleut, etc. Mais je veux dire, on ne voit pas les choses pousser. Quand vous roulez là au bord de la route avec vos parents, vous voyez, c'est quoi dans le champ? Il y a de la betterave, il y a des carottes. Qu'est-ce qu'ils vendent dans son étal sur le marché et tout? À Paris, on avait un peu perdu ce rapport à la nature. Et depuis qu'on est revenu, chaque fois qu'on revenait tous les week-ends, c'était le grand bol d'air frais, c'était très important. Surtout avec un métier aussi stressant et prenant, bah, c'est du bien d'avoir un cadre reposant où pouvoir se poser, quoi. Donc ça, c'était... Et donc, Antoine particulièrement, il part tous les week-ends, bah, beaucoup de vélo et en forêt. Et puis, il s'arrête pour aller cueillir les plantes en même temps pour le resto. Donc voilà, tout est toujours lié. Et moi, c'est pareil, je me balade souvent, mais c'est très important. Et puis c'est aussi au niveau personnel de pouvoir se ressourcer, de prendre l'air. Et ça permet d'extérioriser tous les soucis qu'on a, tous les trucs qu'on a de la vie. Il faut pouvoir aussi extérioriser ça. Et puis quand on prend un bon bol d'air frais en pleine forêt, ça fait du bien. Voilà, c'est très important pour nous.
Tout à l'heure, vous nous parliez de cueillir des plantes dans la forêt de Compiègne. Est-ce qu'on pourrait plus avoir de renseignements là-dessus ?
Il faut commencer par faire attention, mais de nos jours, on a plein d'applications qui nous aident pour ça. Il suffit d'avoir... Tout le monde a un téléphone maintenant. Donc on cale un téléphone sur une plante et tout de suite, il peut nous trouver la variété, les précautions à prendre. Bon, après, c'est bien. Il y a des professionnels qui font ça, qui font des tours en forêt, en bord de champ, pour nous aider à repérer tout plein de variétés. Après, il y a le côté aussi recherche personnelle. Quand on commence à s'intéresser aux plantes, on se dit, tiens, celle-là, elle me dit quelque chose, je ne suis pas sûr. On peut aussi aller en pharmacie, comme à l'ancienne, n'importe qui trouve un champignon, aller voir son pharmacien pour lui demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc il y a quand même des précautions à prendre qui sont assez importantes. Il y a aussi des mauvaises herbes, il y a la ciguë qui peut être très dangereuse, qui peut se rapprocher de certaines pousses de carottes sauvages ou de cerfeuils sauvages. Mais grâce aux applications, là, on a quand même une petite marge de sécurité. Et parfois, on peut avoir... pour moi, c'est le côté gratifiant, c'est qu'on se balade comme ça dans la nature. Bon, alors parfois, oui, on passe du temps, on se baisse. Au bout d'un moment, quand on se relève, on sent qu'on a un peu mal au dos, mais comparé à d'autres métiers, c'est pas grand-chose. Et là, ces derniers temps, je vais chercher pas mal d'asperges sauvages. Et plein de gens pensaient qu'on pouvait trouver ça que dans le sud. Et quand on voyait que la réaction des gens en disant « Non, c'est vrai, on a ça ici », c'est vrai que là, on se dit « Ouais, on a de la chance, quoi ». Et quand l'autre jour, j'ai cueilli 3 kilos d'asperges sauvages, c'est tout petit, les asperges sauvages. Donc 3 kilos, c'est quand même pas mal. Et là, on se dit « Bah là, c'est vraiment le petit cadeau de la nature. C'était là. Bon, après, il faut faire attention. Il faut bien le nettoyer, il faut bien le cuire, tout ça, tout ça. » Et on se retrouve avec des plantes qu'on connaît très bien, sous d'autres formes. Là, on a de la camomille qui commence à pousser. Là, elle commence, j'en ai vu tout à l'heure. Et quand on pense camomille, on se dit tout de suite tisane. Mais en fait, l'autre jour, on a fait de la glace au sureau, les fleurs de sureau. Pareil, on peut penser à, je sais pas, une infusion de grand-mère, enfin, ou des petits remèdes à l'ancienne. Et là, on peut faire des glaces, des sorbets, on peut accompagner des fraises avec du sureau, de la spérule odorante. Voilà, il y a plein de petites variétés. Et au fur et à mesure, on peaufine ses connaissances.
C'est vrai que depuis qu'on a le restaurant, on a découvert au fur et à mesure des années des nouvelles plantes, des nouveaux coins pour cueillir. Et puis rien que pour l'ail des ours. Et alors tout se fait un peu à la même saison. Hein. C'est justement, on est en plein dedans, il ne faut pas hésiter. Alors, quand vous baladez comme ça en forêt, vous regardez un peu le sol. Puis effectivement, vous téléchargez une application, vous checkez vite fait. Mais aussi, vous pouvez attraper un peu les fleurs, les feuilles. Puis vous sentez, vous regardez si ça a une odeur. Soit ça sent juste l'herbe coupée, dans ce cas-là... Ça n'a rien de rester là-dessus. Mais par exemple, sur l'ail des ours, ça ressemble à du muguet. C'est assez facile à trouver. Déjà, si vous baladez et vous sentez la ciboulette comme ça, c'est qu'il y en a dans le coin. Et là, tout de suite, vous prenez une feuille, vous le sentez et vous tombez dessus. Et ça, c'est gratifiant. Vous revenez voir vos parents. Ah, j'ai trouvé de l'ail des ours, c'est cool, on va faire un truc ce soir avec. Mais au fur et à mesure... Et ouais, Antoine, on cherchait justement les asperges sauvages à l'ouverture du resto il y a 6 ans. Et là, il les a trouvés que l'année dernière, on a trouvé enfin un coin. Et celui-là, on ne lâche pas pour le coup.
À quelle fréquence changez-vous vos menus ?
Alors on a donc un menu carte, enfin une carte à deux choix, deux entrées, deux plats, deux desserts, qui changent à peu près tous les mois. Alors après c'est toujours en fonction des produits qui arrivent, des produits qui sortent. Si l'hiver est tardé un peu, le printemps qui galère à arriver, bah, on se retrouve encore avec des carottes. On va un petit peu attendre une semaine ou deux pour pouvoir... Mais donc en général c'est complètement renouvelé tous les mois. Et ensuite on a un menu midi pour le coup qui a choix unique, entrée, plat, dessert, qui là est renouvelé toutes les semaines. Et on alterne une semaine viande, une semaine poisson, une semaine végétarienne. Et ça voilà, c'est... Ouais, on change, mais on est vraiment... on dépend toujours de nos fournisseurs, de la météo, de tout ça quoi. Donc on s'adapte. On s'adapte, mais ouais, on essaie de changer le plus rapidement possible. On a une carte courte, mais c'est pour qu'elle évolue et pour que nous, on ne s'ennuie pas à faire pendant 6 mois exactement les mêmes choses. Ce qui se passe dans beaucoup de cuisines, malheureusement.
Comment déterminez-vous le prix de vos plats ?
Bah ça, c'est en fonction des... c'est un peu les ratios qu'on a appris à l'école, justement, que vous devez apprendre. Les coefficients multiplicateurs et tout. Alors, sachant que la façon de consommer des clients change en ce moment, donc là, ça va aussi changer pour les mois à venir, parce que maintenant, les restaurateurs faisaient beaucoup leur argent sur la boisson, hein, surtout sur le vin. Il y a de moins en moins de gens qui boivent de vin, etc. Donc, les restaurateurs se retrouvent de plus en plus à devoir faire maintenant, on va devoir faire payer plus cher les plats et moins cher le vin, mais parce que c'est ça le problème maintenant. Mais donc les coefficients multiplicateurs vont changer, mais il faut toujours aussi se baser effectivement sur des garde-fous, des ratios, des coefficients multiplicateurs, toujours être près de son comptable, etc., pour voir si on ne fait pas n'importe quoi, parce que c'est bien beau de faire 100 couverts jour, mais si vous ne gagnez pas d'argent dessus, ça ne sert à rien de se casser la... Voilà. Donc toujours voilà, respecter des ratios selon le type de restauration que vous avez. On ne fait pas les mêmes ratios sur une pizza que sur un plat chez nous. Ça, sinon, notre plat il serait très très cher.
Combien de couverts servez-vous en moyenne ?
On a une capacité de 30 couverts par service. On fait un seul service. Et on est ouvert 9 services par semaine. Alors après, ça c'est notre capacité totale. Depuis le Covid, tout change beaucoup. Enfin, il y a eu le télétravail qui a été mis en place, donc on a eu moins de personnes le midi. Par contre, on est beaucoup plus blindé tous les soirs. Donc c'est vraiment une moyenne, mais on tourne entre 600 et 800 couverts par mois. Donc ça, c'est voilà, notre échelle, c'est bien. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais comparé à d'autres machines où là, ils font ça par jour, voilà, tout est relatif. Mais le travail n'est pas le même aussi, quoi. Donc on n'a pas. Mais voilà, autour de 600-800 par mois.
Quel est votre type de clientèle ?
Alors c'est une fierté qu'on a, c'est qu'on a un peu de tout. C'est justement, on ne voulait pas s'enfermer à Senlis et Chantilly sur une clientèle un peu trop, voilà, classe sociale supérieure, qui est un peu trop fermée au reste. Enfin, on voulait une clientèle ouverte, donc on a autant des employés, des ouvriers qualifiés, des cadres sup, des chefs d'entreprise. On a vraiment tout et c'est toujours très sympa. Ce qui est intéressant, c'est bah, ce plaisir à... avoir les étoiles dans les yeux des gens qui viennent, en fait, justement, qui n'ont pas forcément justement l'habitude de ce genre de restaurant. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants où les restaurants un peu étoilés et tout, c'est une clientèle qui vient pas seulement pour profiter, mais aussi qui peut se le permettre, qui est là juste parce qu'elle peut se le permettre, en fait. Donc nous, on a tout, on est très contents avec ça.
Comment gérez-vous vos réseaux sociaux ?
Alors les réseaux sociaux, on les gère ouais, comme on peut, comme dit Guillaume, on les gère nous-mêmes. Il y a des gens qui font appel à des gens, enfin à d'autres personnes qui sont vraiment, qu'en font leur métier. Nous, ça va, on reste une petite entreprise, on fait ça. Il faut qu'on pense de temps en temps à prendre des photos, etc. On le fait peut-être pas assez, je sais pas, mais on essaye de pas matraquer non plus les réseaux sociaux. Peut-être qu'on est un peu plus à l'ancienne que certains là-dessus, mais on essaye de, voilà, d'alimenter un petit peu. Voilà, après... un petit peu, trop, pas assez, je sais pas, mais...
C'est aussi quand on a le temps, et puis il y a des périodes où on se dit, allez, on se lance à fond, on va se mettre à fond sur la com, et puis là, on va se mettre sur Instagram, on va faire des publications, un peu des newsletters à partager ce qu'on fait en ce moment. Justement, j'en ai fait une où, j'expliquais qu'Antoine, il avait sorti le barbecue, là, pour les beaux jours, parce qu'on va faire un peu de cuisine au barbecue, la cueillette et tout, et puis on donne des nouvelles aux clients, et sinon, des photos. La dernière fois, Antoine a travaillé un poisson, un maigre qui faisait 16 kilos, alors une belle bête. Et puis, bah voilà, on l'a partagé sur les réseaux. Et c'est aussi une preuve de transparence pour les clients. Mais voilà, nous, c'est particulièrement ouais, Insta, partagé aussi sur Facebook, notre site internet, Google. Mais c'est vrai que maintenant, au niveau de la communication, les réseaux sociaux, c'est une bonne idée parce que c'est une communication qui est peu coûteuse et qui touche, en tout cas, après, ça dépend quel type de clientèle vous voulez toucher. Mais si vous voulez toucher les jeunes, c'est quand même très intéressant.
Comptez-vous ouvrir d'autres restaurants ?
Pour l'instant, non. On n'a pas le temps. Mais il y a pas mal de clients qui disent « Mais venez ouvrir en Normandie, venez ouvrir dans le sud, parce qu'ils veulent plus de restaurants comme ça. Hein. » C'est une preuve aussi que les gens recherchent ça. Ils veulent carte courte et de la qualité, c'est tout. Ça sert à rien de faire des romans. Et non, pour l'instant, on a traversé le Covid, etc. Donc on s'est vraiment reconcentré. On a vu d'autres projets, pourquoi pas d'autres types de restauration plus rapides, mais sur la qualité. Pour l'instant, on l'a laissé un peu de côté, mais on verra par la suite. En fait, on se prend pas trop la tête et puis et ça sert à rien de faire ses plans trop en avance, même pour vous. Ça sert à rien de prévoir ce que vous allez faire à 30 ans parce que ça sera pas ce que vous allez prévoir. Mais là, on verra. On va voir par la suite. Là, on est à fond sur les ferlampes encore parce que c'est voilà, on a encore des choses à faire, des choses à réaliser. Et puis on s'éclate tous les jours et on n'a pas encore. On n'a pas le temps de passer à autre chose, mais voilà, nous on veut jamais s'arrêter, on veut toujours rester à s'amuser, donc c'est possible que par la suite il y en ait d'autres, mais sous quelle forme, on ne sait pas encore.
Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous tous de nous avoir accueillis, c'était très sympa.
C'était les élèves de seconde du lycée Charles de Gaulle. Merci de nous avoir écoutés.